Après le coup royal du Mali contre Barkhane en termes militaires et l'expulsion de toute force étrangère de ce pays, allant même jusqu'à traduire les auteurs de crimes de guerre devant la justice internationale, le prochain coup, anti-Occident du Mali, est un volet économique avec pour objectif de supprimer la monnaie colonialiste, le franc CFA. Dans sa dernière démarche souverainiste, le Mali a annoncé la création de la SOREM, société à 100% malienne qui va exploiter, traiter et commercialiser ses ressources visant à appuyer la souveraineté malienne dans le secteur. Alors que, grâce à cette société, le Mali pourra maintenant vendre le directeur exécutif de Tirac Sahel, croit que ceci peut mener à la création d'une devise nationale. Je pense que la finalité, c'est d'avoir des réserves d'or, avance-t-il. Derrière le souhait du Mali de s'affirmer souverain dans le domaine minier, se cache la création d'une monnaie nationale, assure à Spoutnik un expert malien. D'après lui, la majorité de la population demande de quitter le franc CFA. Vous voyez aujourd'hui le secteur minier malien, dominé par les entreprises multinationales, que ce soit du Canada ou d'autres pays, détaille-t-il. La création de la SOREM, société à 100% malienne, qui va exploiter, traiter et commercialiser ses ressources, vise à appuyer la souveraineté malienne dans le secteur, poursuit-il, avant de mettre en relief. L'objectif recherché par la nouvelle société, c'est de repositionner l'État malien au cœur de la recherche et de l'exploitation de la ressource minérale. Et pourquoi le Mali aurait pensé à créer une devise nationale afin de s'emparer de cette monnaie colonialiste qu'est le franc CFA? En effet, depuis l'affaire des soldats ivoiriens et l'exigence du gouvernement malien au gouvernement ivoirien de faire extrader des personnalités de l'ancien gouvernement malien du sol ivoirien vers le Mali en échange de ses soldats et l'échec de l'Axuès au temps de faire chanter la junte malienne via diverses sources de pression, le Mali a bel et bien compris que les pressions de part et d'autre de cet axe n'en finiront pas là et que l'économie pourrait devenir un levier de pression de plus pour cet axe pour faire chanter le Mali. Le gouvernement malien n'a d'ailleurs pas eu tort d'anticiper ceci, puisque suite à cette affaire, Abidjan demande la tenue d'une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre des Affaires étrangères de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Au sein de l'institution sous-régionale, on annonce deux réunions sur le sujet, au moins une réunion la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, et le ton pourrait monter contre le Mali, lit-on alors sur RFI. Alors que le Mali a anticipé cette campagne de pression et a commencé un nouveau volet économique en créant sa propre monnaie, ce détachement monétaire et cette tendance pro-axe de l'Est a également vu le jour dans d'autres pays africains, à savoir la RCA qui plaide pour la création d'une monnaie virtuelle et l'Égypte qui annonce que le rouble russe pourrait figurer sur la liste des devises acceptées pour les paiements dans le pays. Selon les informations de la Banque centrale d'Égypte dont dispose Tezzour, à partir de fin septembre 2022, le rouble russe sera inclus dans la liste des devises utilisées dans le pays, a rapporté lundi RIA Novosti, citant le service de presse du voyagiste Tezzour. Alors que la Russie affirme une présence de plus en plus prononcée au Mali, la création d'une devise nationale pourrait être parachevée par l'apparition du rouble russe dans les échanges maliens avec leurs partenaires commerciaux. D'ailleurs, l'Iran et la Russie ont récemment annoncé que le marché des échanges des pays avait lancé le commerce du rial iranien et du rouble russe, une étape vers l'abandon du dollar dans la relation économique et financière entre Téhéran et Moscou. Fini Barkhane, fini toute présence militaire et enfin adieu le franc CFA. Toutes les portes du Mali sont désormais fermées sur le colonialisme. Dans la conjoncture où le monde entier, notamment les pays européens, sont en quête du gaz et du pétrole bon marché, n'est-ce pas intéressant de voir l'ambassadeur iranien au Sénégal publier un article concernant ce sujet? Voyons une partie de ce communiqué publié par Mohamed Reza Dehchiri, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. L'Iran dispose d'énormes potentialités dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. Selon les statistiques internationales dans le domaine des indicateurs de l'industrie pétrolière, les réserves totales de pétrole brut au Moyen-Orient sont égales à 741,6 milliards de barils, dont la part de l'Iran est de 18,4%. L'Iran, en tant que deuxième productrice de pétrole des pays membres de l'OPEP, disposant de 10% des réserves totales de pétrole et de 18% des réserves mondiales de gaz naturel, occupe une place particulière dans l'approvisionnement énergétique mondial, avec la potentialité de production de 4 millions de barils de pétrole par jour. Actuellement, il existe 67 entreprises pétrochimiques d'une capacité nominale de 90 millions de tonnes en Iran. Au total, 40 millions de tonnes de produits pétrochimiques finaux sont produits dans le pays, dont 30 millions de tonnes sont exportées et 10 millions de tonnes sont vendues sur le marché intérieur. Étant donné que d'importantes quantités de pétrole et de gaz ont été découvertes au Sénégal depuis 2014, l'Iran peut coopérer avec le Sénégal dans le domaine des industries pétrolières, gazières et pétrochimiques. L'Iran disposant de potentialités de forêt d'extraire des ressources pétrolières jusqu'à une profondeur de 3000 mètres sous la mer et également de capacité de construire des petites, moyennes et grandes raffineries d'une capacité de 1000 à 10 000 barils par jour. De même, l'Iran dispose de la technologie nécessaire pour convertir les flammes résultant de l'irruption des gisements de gaz en gaz liquide et aussi fournir le gaz naturel comprimé, GNC, ainsi que le pétrole brut et toutes sortes de produits pétrochimiques tels que polymères, urée, ammoniac, plastique, etc., ayant des avancées particulières et les expériences de plus de 100 ans, ainsi que grâce à son progrès dans le domaine de recherche et de développement, l'Iran est prêt à transformer sa connaissance au Sénégal dans les secteurs de raffinerie, d'industrie pétrochimique, du service technique et du contrôle de qualité des produits pétroliers. En effet, l'Iran et la Russie, cibles de sanctions et pressions économiques, ont récemment décidé de créer une coalition gazière et de contourner ainsi toute tentative d'affaiblissement de l'axe US-Occident. Cette coalition s'est très vite étendue et a fait intégrer le Venezuela, lui aussi cible de sanctions américaines, et désormais le Sénégal pourrait être un autre membre de cette importante coalition. Les récents accords avec le Sénégal visent à renforcer cette coalition gazière anti-Occident en Afrique de l'Ouest, propre à dominer les marchés européens, des Européens qui semblent être inquiets de ce rapprochement, alors qu'ils traversent l'une des pires crises énergétiques. Les va-et-vient des autorités de l'UE au Sénégal en sont une preuve de cette inquiétude croissante. Le Sénégal est l'ami de l'Iran et de la Russie, ces deux pays qui travaillent d'arrache-pied à mettre définitivement à plat le régime des sanctions, cherchent-ils à faire entrer le Sénégal dans leur coalition. Après, ce serait extraordinaire de voir un poids lourd de l'Afrique de l'Ouest dont les politiques ont poussé l'Africom à se retirer du Sénégal pour aller poser ses halons en Somalie, rallier le nouveau RIC des BRICS, à savoir la Russie, l'Iran et la Chine. C'est merveilleux mais aussi parfaitement justifié dans la mesure où le Sénégal est un État-nation anticolonialiste et anti-impérialiste. Alors que l'armée camerounaise repousse toute tentative de déstabilisation dans la région anglophone, il semblerait que l'axe US-OTAN cherche à mettre en œuvre une nouvelle stratégie afin de contrer les avancées de l'armée camerounaise. Chris Anou est désormais le nouveau chef des séparatistes anglophones du Cameroun. Ex-porte-parole, Chris Anou vit en exil à Houston, aux États-Unis. Que signifie cette nomination ?
Écoutez, le mouvement amazonien, c'est entièrement une création américaine. Il a été créé en 1999, c'est-à-dire 15 ans avant la crise aux États-Unis. Et il est consécutif à l'échec d'une première tentative de révolution de couleur en 2015 au Cameroun. Le mouvement amazonien est basé près de Washington dans une ville qui s'appelle Green Belt, à 30 km des États-Unis. C'est là qu'il a son centre et la télévision satellitaire qui est autorisé par le gouvernement américain. Ils autorisent également les collectes de fonds via les sociétés de collecte de fonds et de transfert de fonds extra-bancaires. Les Américains ont toujours protégé les Amazoniens, puisqu'ils prétendent que les anglophones sont discriminés au Cameroun. Et en particulier, Kamala Harris, qui aujourd'hui est la vice-présidente, a été la marraine du mouvement amazonien. Elle a réussi au cours des années précédentes à faire recevoir les leaders amazoniens à la Common House, qui est le Parlement fédéral du Canada, et également au Congrès des États-Unis. Dans les deux cas, ils ont été présentés aux parlementaires comme les représentants légitimes du peuple amazonien. Il y a tout d'abord eu un mouvement qui a été une grève des avocats et des professeurs et qui a été transformé ensuite en mouvement sécessionniste. Derrière tout ça, il y a un mouvement unique, c'est le SCACUF, le Southern Cameroon and Amazonian United Front, qui est basé aussi à Greenbelt aux États-Unis. C'est lui qui a financé la grève des avocats, qui a financé la grève des enseignants et qui aujourd'hui finance le mouvement amazonien. Enfin, les Américains ont lancé en début de cette année une troisième carte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la question Kanuri. Les Kanuri, c'est un peuple musulman qui est présent sur toutes les rives du lac Tchad, mais en particulier au Cameroun. L'ambassade des États-Unis a fait une conférence en début d'année en présentant la question Kanuri comme la question Oïghour du Cameroun, en disant que les Kanuri étaient au Cameroun ce que les Ouïghours sont à la Chine. C'est donc une vaste déstabilisation, mais je le répète donc, c'est l'échec d'une première révolution de couleur transformée tout d'abord l'arrivée de Boko Haram, puis l'arrivée des Amazoniens, puis une nouvelle tentative de révolution de couleur lors de la présidentielle de 2018 avec le fameux Maurice Kamto, qui s'est proclamé président élu du Cameroun. Et en ce moment d'ailleurs, Kamto essaye de remonter en scène. Il est soutenu par le State Department, mais il est également soutenu par le Quai d'Orsay et par le journal Jeune Afrique.
Les recettes fiscales mobilisées du Cameroun ont augmenté d'environ 140% en termes relatifs entre 2010 et 2022 grâce au système de numérisation, selon des données publiées mardi par la Direction générale des impôts. Les recettes budgétaires de l'État sont ainsi passées de 992 milliards de francs CFA à 2,384 milliards de francs CFA pendant la période étudiée au Cameroun. L'administration fiscale indique néanmoins que le volume global des flux financiers illicites représente des pertes annuelles de recettes d'environ 100 milliards de francs CFA, quelque 160 millions de dollars, soit 6% du produit intérieur brut. À l'issue des assises du dialogue national inclusif et souverain, notamment celle du groupe traitant des thématiques ayant trait à la forme de l'État et à la Constitution, le président de l'AJDR, Deba Rodrigue Tchoké, a révélé certaines choses. En effet, il a déploré la réaction des aînés qui ont tué le pays et qui veulent absolument assister à son enterrement. « Le pays n'est pas mort, dit-il. Le Tchad est convalescent et il y a de bons médecins qui veulent réveiller ce pays. Nous allons le faire. Calmez-vous, cher aîné », a-t-il poursuivi. À propos de la forme de l'État, Deba Rodrigue Tchoké a révélé qu'il faut reconnaître que la forme actuelle de l'État, héritée de la colonisation, est inadaptée. Or, il faut des institutions fortes au lieu des hommes forts pour assurer une bonne gouvernance politique, économique, comme l'a révélé le président Barack Obama lors de sa visite en Afrique. Dans le cadre de la refondation du dialogue national inclusif, il a indiqué que les gouvernants actuels doivent nécessairement tirer de leçons des échecs de leur mode de gouvernance actuel. Au Sénégal, une loi de 2010 exige la parité absolue entre les sexes dans toutes les institutions électives, une règle bien respectée par la nouvelle législature. À l'issue de la rentrée parlementaire ce lundi, le candidat choisi par le président Macky Sall, Amadou Mamé Diop, 57 ans, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale au cours d'un vote boycotté par l'opposition. Le poste est donc occupé par la coalition de la majorité Beno Bokiakar. Le député maire de Richartol a obtenu 83 voix contre 84 votants à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé dans une atmosphère de grande confusion et ce après plusieurs heures de débats, d'invectives, de cris et de bagarres. Les gendarmes sont finalement intervenus dans l'hémicycle. Aminata Touré, ancienne première ministre, et député de la coalition présidentielle Beno Bokiakar, un temps considéré comme la favorite pour occuper la présidence de l'Assemblée nationale, a été écarté. Le Togo prend part au premier salon mondial des infrastructures, équipements et services aéroportuaires qui s'est ouvert à Kigali le lundi 12 septembre 2022 et qui devrait prendre fin le mercredi 14 septembre 2022. Le pays est représenté par le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Namalata. À cette rencontre, le représentant du Togo va partager l'expérience togolaise pour la promotion de l'activité aéroportuaire. Cette rencontre est organisée sous les auspices du ministère rwandais des infrastructures en marge du 6e sommet et exposition d'aviation en Afrique. L'événement réunit des responsables gouvernementaux, des dirigeants de l'aviation, des régulateurs et des décideurs politiques.